Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous eu si peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se dirent les uns aux autres « Qui est-il donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Seigneur, ta parole est un guide qui nous parle de toi, alors par elle, parle-nous ce matin. Ceux qui étaient là, nous écoutions Jésus raconter des paraboles du royaume qui nous enseignaient que, quelles que soient les apparences et ce que nous en percevons, le royaume est en expansion. Et nous terminions en remarquant qu'il y a deux niveaux d'écoute et de réception de la parole de Jésus. Il y a le général et, pour celui qui reçoit le général avec joie, il y a le particulier. Et là, nous sommes dans la suite de ces deux paraboles. Alors, écoutons ce matin dans cette petite histoire du jour que nous connaissons tous, en général, ce que l'Esprit pourrait nous dire à chacun, en particulier. Oui, ce passage de la tempête apaisée nous est bien connu déjà parce qu'il apparaît dans trois des quatre évangiles. Et aujourd'hui, nous avons lu ce récit dans la version de Marc, dans sa version la plus succincte, la plus dépouillée. L'évangéliste n'a gardé que l'essentiel. Alors ce matin, nous sommes invités à embarquer avec Jésus. Passons sur l'autre rive. Notre texte commence par cette invitation de Jésus, une invitation au changement, et donc forcément une initiative qui marque une rupture. La journée se termine, on peut donc en déduire que la nuit va bientôt tomber, et c'est à ce moment-là que Jésus invite ses disciples à traverser la mer de Galilée pour aller de l'autre côté, pour aller dans un autre endroit, pour aller dans un autre territoire, en territoire païen. Oui, Jésus invite ses disciples à un déplacement, à un changement. Or, tout changement, quel qu'il soit, peut réserver des surprises. On quitte ce qui est connu pour aller vers l'inconnu. Et c'est ce qui se passe ici. Et la surprise qui attend les disciples n'est pas bien bonne. Voilà qu'une tempête se déclenche une fois qu'ils sont au beau milieu du lac, à bonne distance des deux rives. Un tel phénomène que ces pêcheurs professionnels et aguerris ont du mal à négocier. Ils sentent même qu'ils sont en perdition. Mais peut-être, avant d'aller plus loin, pensons à toutes ces situations de changement qui ont pu affecter nos vies. Peut-être un déménagement, une reconversion professionnelle, une séparation, une période de chômage, la venue d'un nouvel enfant, ou que sais-je encore, ce genre de situation qui peut avoir des effets déstabilisants et perturbateurs. Et dans une telle situation, peut-être nous sommes-nous trouvés à avoir peur, comme les disciples, à subir les éléments, à se sentir frappés par les éléments sans trop savoir comment réagir. Il n'y a pas de solution apparente. À vivre un moment où on peut même se poser des questions sur son avenir immédiat, la pensée de la mort imminente, symbolique ou réelle d'ailleurs, nous frappe parfois de manière à nous toucher profondément, à marquer nos esprits. On a l'impression de se perdre soi-même dans ces éléments qui nous agitent. C'est ce qui se passe en tout cas ici, pour les disciples que nous trouvons dans l'angoisse de passer sur l'autre rive. Et dans ces moments-là, le croyant, ou même le mal-croyant, peut se demander « Où est Dieu ?»« Où est Dieu ? Que fait-il ? Pourquoi n'intervient-il pas ? Pourquoi ne réagit-il pas ? Pourquoi ne fait-il rien ? Pourquoi laisse-t-il faire ?» Jésus, qui est venu nous révéler la présence et la pensée de Dieu pour les hommes, dort alors qu'il y a danger. Verset 37, « Les vagues se jetaient dans le bateau qui déjà se remplissait, lui dormait à la poupe sur un coussin. » Alors beaucoup de choses ont été dites sur ce sommeil de Jésus. À ce propos, cette semaine, j'ai entendu un pasteur canadien sur Internet développer un très long moment comment, après une journée éreintante d'enseignement, Jésus, dormant au milieu de la tempête, démontrait son épuisement, sa fatigue toute humaine. Mais aussi sa sérénité au milieu des événements hostiles démontrait une paix intérieure qui venait de sa bonne conscience et de sa solide santé physique. Voilà les amis, faites avec ça. Quoi qu'il en soit, les disciples le réveillent, alors plus par agacement ou par reproche, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas, que pour avoir un vrai coup de main de Jésus à rouler les voiles ou à tenir la barre puisqu'il est à l'arrière du bateau. Mais voilà, à cause d'un tel reproche, je trouve qu'on aurait plus envie, dans ce passage, d'entendre parler du sommeil de Christ et de la mort de Dieu que de la sieste de Jésus, parce qu'en pleine forme, dans sa tête ou dans ses baskets. Oui, on pourrait plutôt voir dans le sommeil du Christ une image de la mort, et déjà une image de sa propre mort, ou même un symbole de son absence charnelle auprès de ses disciples, comme le disait Paul aux Corinthiens dans notre lecture. Mais en fait, c'est bien souvent que les auteurs de la Bible parlent de la mort en termes de sommeil. « Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme », dit le psaume 13. Ou dans le livre de Daniel, il est prédit « Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront », au chapitre 12. Et que ce soit dans les évangiles ou dans les épîtres, le Nouveau Testament reprend volontiers la métaphore, et cela jusqu'à nous. Vous n'êtes peut-être pas sans ignorer que le mot « cimetière » étymologiquement veut dire « un dortoir ». Un dortoir. Donc on voit, ce rapport est venu jusqu'à nous. Bref, en tenant compte de ce point de vue, dans ce sommeil profond et ce réveil de Jésus, on aurait déjà ici au passage une allusion à la passion, à la mort et à la résurrection du Christ, cette tempête qui va vraiment frapper les disciples dans quelques temps pour eux. Mais le thème du sommeil est aussi employé dans la Bible pour exprimer l'indifférence de Dieu, ou l'absence de Dieu, ou son absence d'intervention, son silence peut-être. Comme ce psalmiste qui se sent abandonné et qui tente de réveiller son Dieu. « Lève-toi, pourquoi dors-tu Seigneur ? Réveille-toi » Et beaucoup d'autres psaumes reprenant ce genre de questions à Dieu avec le reproche de son sommeil, ou même dans les prophètes, comme dans Ésaïe 51, « Éveille-toi, éveille-toi, vais-toi de force, bras du Seigneur, éveille-toi comme au jour de jadis, au temps des générations d'autrefois. » Bref, on constate au passage que la théologie du sommeil de Dieu, pour ne pas dire de la mort de Dieu, existe déjà et date de l'Ancien Testament. C'était déjà une actuelle dans ces textes de l'Ancien Testament. Et pourquoi donc ? Eh bien, parce qu'il s'agit, d'une expérience universelle. Il s'agit d'un sentiment et d'une attitude qui correspondent tout à fait à l'universelle condition humaine. Impuissant, ignorant, menacé de toutes parts, l'homme religieux est tenté d'en appeler immédiatement à son Dieu. Et puis, déçu, voyant que Dieu ne se manifeste pas dans les causes naturelles qui le frappent, il pense alors que Dieu s'est endormi. Ballotté d'illusion en illusion, devrait-il alors pour autant refouler ses sentiments religieux et se limiter à la construction d'un royaume séculier, d'un royaume des hommes? Pas certain. Parce qu'au lieu de ces illusions, de ces espoirs déçus et de ces solutions limitées, une voie plus sûre nous est ouverte par la Bible en général et peut-être justement par notre passage en particulier. En avançant dans notre marche spirituelle, en suivant le mouvement de la révélation divine dans nos vies, on discerne chacun qu'il faut sans cesse bouger, changer, élargir, élaguer, purifier notre attitude religieuse pour l'amener à une foi plus mûre, toujours plus authentique, pour une foi à la fois plus informée, plus pensée, plus réfléchie, plus sensée, et à la fois plus épurée de tout ce qui doit l'être. Et justement, dans ce passage, j'ai l'impression que nous approchons de ce Jésus et de la manière dont il croit en Dieu, dans cet environnement que nous partageons avec lui. Voyons trois points, en tout cas, qui nous éclairent sur sa foi. Déjà, en lisant ce récit de la tempête, on ne peut éviter de penser à tous ces textes de l'Ancien Testament, dans lesquels la mer est considérée, sans doute à cause d'une vision du monde, d'une cosmogonie babylonienne qui voyait le chaos initial et redoutable, mais la mer, c'est toujours la mort. La mer est considérée toujours comme une puissance redoutable, menaçante et hostile. C'est le chaos primitif, alors que Dieu organise, qu'il met en place, il met de l'ordre, il met des limites. Mais voilà un détail qui ne doit pas nous échapper. Si dans l'Ancien Testament, Dieu réprime le retour en force de la mer et qu'il met des limites, comme il le dit dans Job, qu'il calme encore quelques tempêtes ici ou là, il arrive aussi, et même souvent, selon une conception théologique qui tente à tout rapporter au Dieu souverain, que ce soit lui qui déclenche les vents et les flots impétueux. Et même si c'est pour l'apaiser juste après, on peut voir ça par exemple dans le psaume 107 ou dans le livre de Jonas, eh bien il ne semble pas en être de même du tout dans notre récit. D'ailleurs, d'une manière générale, Jésus n'attribue pas à Dieu ce qui est redoutable et mortel pour l'homme. La mer est bien pour lui non pas une espèce de puissance mythologique autonome dont il faudrait avoir une crainte superstitieuse, mais une simple partie de la création. Et comme bien d'autres éléments de cette création, eh bien, elle peut se retourner contre l'homme au lieu de lui être soumise, mais il ne semble pas que Jésus voie la volonté de Dieu derrière la tempête, pas plus qu'il ne la voit derrière la maladie, l'infirmité ou la mort. Sinon, il ne se serait jamais battu contre ces choses-là, il ne se serait jamais battu contre celui qui l'a envoyé et qu'il est censé représenter. Autrement dit, le salut dont Jésus nous parle ne nous fait pas échapper de manière prématurée aux épreuves inhérentes à notre condition humaine. La seconde chose qu'on peut apprendre sur Jésus s'appuie sur le reproche aux 12, qui prend la forme, vous l'avez entendu, de l'étonnement, comme souvent chez Marc. Que l'on ne croit pas surprend Jésus. Mais c'est sa surprise que nous pourrions trouver, quant à nous, surprenante, un peu comme son sommeil dans la tempête. Parce qu'on imagine bien que l'étonnement de Jésus n'est pas fin, qu'il n'est pas joué, et que ce n'est pas non plus une méthode pédagogique du maître qui sait bien que, de toute façon, l'attitude de ses disciples est, hélas, toute naturelle. Et vous et moi, nous aurions eu la même. Non, ici, semble réagir, non à partir de la connaissance qu'il a de ce qui est dans le cœur de l'homme, mais à partir de la foi qui est la sienne. Totale, immédiate, pleine, profonde, constante. Et c'est pourquoi ce texte est peut-être moins pour nous une exhortation à la foi qu'une révélation de la foi de Jésus. Il y a une troisième chose qui nous parle de lui dans ce passage, parce que si Jésus a beau parler directement comme Dieu au vent et à la mer, il est clair que la foi dont il parle, au verset 40, et dont l'absence chez les disciples l'étonne, est la foi en Dieu, pas en lui. C'est la foi en son Père, en celui qui l'habite jusque dans son sommeil. De sorte que c'est à Dieu qu'il sert que doit se rapporter l'exousia. En grec, exousia, c'est cette parole d'autorité créatrice. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Hein, c'est ça l'exousia, c'est cette parole d'autorité créatrice dont il vient là de leur donner un nouveau signe. Et c'est en cette exousia du Père que les disciples auraient dû croire. Mais l'Église, depuis les premiers siècles et depuis ses premiers disciples, pêche peut-être par excès de logique. Parce qu'il manifeste une parole d'autorité, une exousia, ou parce qu'il manifeste tel signe de la part de tel signe divin de celui qui l'envoie, alors on en conclut, Jésus est Dieu. Les disciples, eux, ont beau ne pas savoir qui est celui-ci, ils font ce que ferait n'importe quel homme dans la même situation, ils dirigent leur attention, leur crainte, leur admiration, et certainement aussi leur foi, vers celui par qui et en qui cette parole d'autorité qui les a sauvés s'est directement manifestée. Peut-être que le recul qui leur permettrait de rapporter les choses au Dieu souverain est rendu impossible par leur émotion même. Imaginez la surprise de cette expérience forte qu'ils viennent de vivre, qui vient d'avoir lieu. C'est une expérience de mort quand même, hein, nous sommes perdus, donc c'est une expérience de mort qu'ils vivent, et à partir de ce moment, ils ne peuvent plus nier la compétence de Jésus lorsqu'il s'agit de vivre. Et pour eux, la question est maintenant posée, qui est-il ? Le vent et la mer obéissent-ils à un homme ? Et je trouve très significatif que ce petit récit, très intense, se termine par des questions plutôt que par des affirmations un peu à l'emporte-pièce, des affirmations définitives comme d'autres peut-être auraient été tentés de le faire. Qui est-il ? Et c'est le reste de l'Évangile qui va donner quelques lumières pour répondre à tous ceux qui, à travers l'espace et le temps, se posent toujours la question. Alors voilà qui doit nous donner la curiosité d'aller chercher ces lumières à notre tour, avec enthousiasme, sans jamais nous lasser d'y découvrir celui qui nous révèle, le Dieu vivant. Amen.